France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Y aurait-il un trop-plein d'actualités anxiogènes? Les guerres, les attentats, les catastrophes naturelles, les pandémies, même les gouvernances internationales finissent parfois par donner la chair de poule. Et je ne vous parle pas des faits divers sordides et autres faits de société. Avec quel impact au final sur notre santé mentale? Quel est le prix à payer à force d'être en contact avec cette information déprimante via les journaux ou les notifications en permanence à portée de main sur les smartphones? Eh bien, ainsi s'est développée au fil des ans la notion de fatigue informationnelle. On verra précisément ce que ça recouvre. On entendra peut-être parler ce soir aussi d'infobésité. Un mot un peu valise, mais pour illustrer cette surcharge d'informations négatives au point parfois de ne plus pouvoir la mettre à distance. On verra donc à quel point le caractère anxiogène de l'information peut favoriser des épisodes dépressifs et quelles stratégies peuvent être mises en place. Ça passe parfois par un exode informationnel contre le sentiment de découragement dans un monde qui ne tourne pas toujours bien rond. Venez donc témoigner ce soir. Le standard de France Inter est ouvert. On attend aussi vos questions. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec un premier appel de Florent qui est à Paris. Bonsoir Florent.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
Bonsoir à vous, bonsoir France Inter, bonsoir aux invités, aux auditeurs.
Vous aviez un témoignage ou une question?
Eh bien, c'est un témoignage et comme beaucoup, ça va se rapporter un petit peu à une période charnière. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est la période du confinement avec le Covid-19. Et ben, au début du confinement, j'ai acheté une radio pour me sentir un peu moins seul dans mon studio. Et puis, évidemment... J'ai commencé à écouter les chaînes d'info, votre antenne également. Et c'est là où j'ai commencé à écouter pas mal d'émissions aussi. Et très rapidement, j'ai compris en fait que ça tournait en boucle. Les infos se répétaient, plein trop d'infos, une saturation très rapide en fait. Et en une dizaine de jours, j'ai très vite compris qu'il fallait que je trouve une alternative, un exutoire. Et j'ai laissé voguer un peu mes yeux sur les rayons de ma bibliothèque. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de reprendre un petit peu contact avec la lecture. Et la lecture m'a permis de reprendre contact un peu avec la nature. Et on avait des périodes où il fallait faire des autorisations de sortie. Ben moi, j'en ai profité pour aller herboriser sur les trottoirs de Paris. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé ma relation avec les plantes. J'ai gardé le contact avec la radio, j'écoute la radio régulièrement, je suis connecté aux infos régulièrement. J'ai par contre réduit ma relation aux réseaux sociaux, j'ai supprimé deux ou trois réseaux sociaux et pour ceux que je garde en tout cas, je les réduis en temps d'utilisation. Donc voilà, en fait, ça a été un peu un déclic, une saturation qui a... pour moi, déclencher l'envie de trouver une alternative pour en sortir, pour dire sinon ma santé mentale va prendre trop cher et il fallait que je trouve quelque chose.
Et vous avez trouvé les voies pour en sortir visiblement. Merci de ce témoignage avec ce soir deux invités pour vous répondre. Marie Colombelle, bonsoir.
Marine
Colombelle, vous avez raison, pardon, bonsoir. D'avoir écorché votre prénom. Psychiatre spécialisée dans les troubles anxio-dépressifs. Vous êtes autrice d'un livre intitulé « Sortir des ruminations mentales » paru chez Marabout Éditions. Et à vos côtés, Sébastien Boulogne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé d'études à l'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation, et vous êtes co-auteur de « L'exode informationnel ». On va voir ce que ça recouvre dans un instant. C'est une étude en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès qui a été publiée en décembre 2024. Notre auditeur nous dit qu'il a subi, après la période Covid, ou au moment de la période Covid et de son confinement, trop d'infos au point de le rendre, j'ose pas dire dépressif parce que je ne suis pas de médecin, mais en tout cas, Marine Colombelle, ce sont des symptômes de ce qu'on appelle la fatigue informationnelle. C'est quoi exactement la fatigue informationnelle?
Alors, ce témoignage est vraiment intéressant parce que on le constate vraiment en clinique. Hein, dans mon bureau, j'accueille beaucoup de patients. Et c'est vrai qu'il y a un avant et un pré-Covid. On a été confinés, on a dû changer pendant plusieurs mois notre mode de vie. Et notre relation à l'information et surtout à la temporalité de l'information, pour moi, a vraiment énormément changé à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que, comme le disait très bien notre auditeur, on est dans une sorte de flux d'informations permanent, augmenté en plus, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec l'arrivée des réseaux sociaux qui finalement devenait le mode d'information principal, qui fait que on avait finalement une sorte de double monde qui venait, notre monde à nous, mais qui se faisait petit à petit envahir par le monde extérieur anxiogène, avec finalement une disparition des frontières. Et c'est quelque chose qu'on constate chez beaucoup de mes patients, hélas, qui souffrent de troubles anxio-dépressifs, c'est que cette surmultiplication de l'actualité, cette répétition sans arrêt, soit des messages violents, soit même des images violentes, finalement deviennent extrêmement intrusives, au point de changer les émotions, de changer les pensées, et provoquer de la pathologie.
On va en reparler de cette pathologie. Sébastien Boulogne, de l'Observatoire Société et Consommation. Est-ce que cette fatigue informationnelle touche toutes les classes sociales et tous les âges ?
Alors, la fatigue informationnelle, oui, en effet, va toucher un peu toute la population. C'est justement un symptôme un petit peu insidieux qui traverse notre société.
D'après vos études, quel pourcentage de la population est touché par ce phénomène ?
Alors, nous, on a fait un indicateur qui va agréger plusieurs paramètres et grâce à ça, on a pu observer qu'on a environ la moitié de la population qui est concernée par la fatigue informationnelle. Donc c'est une part assez importante et environ un tiers qui en souffre beaucoup, avec des symptômes justement que le docteur a pu nous expliquer, de l'anxiété, du stress. Donc des facteurs assez importants et qui sont directement reliés par nos répondants, les relient directement à l'information qu'ils ressentent, en fait, qu'ils vont subir plutôt qu'ils vont la choisir.
Docteur Marine Colombel, cette fatigue informationnelle, ce serait donc un sentiment d'impuissance face à cette anxiété délivrée par l'information ?
Le mot impuissance est important. Pourquoi ? Parce que dans impuissance, il y a le fait de subir une situation, de ne plus en être acteur. Et effectivement, lorsqu'on est soumis à ce flux d'informations, finalement, on ne sélectionne plus ce qui fait sens pour nous, ce qui est important pour nous. Pourquoi ? Pour moi, une des raisons, c'est le changement de la forme du média. Si on remonte à quelques décennies avant nous, la première façon de s'informer, finalement, c'était d'ouvrir le journal. Et le journal, c'était souvent une fois par semaine. On ouvrait, on allait dans les pages qu'on sélectionnait, on allait lire l'information, on était au courant. Mais le reste du temps, on fermait le journal et on partait dans notre vie. Et finalement, on pouvait se ressourcer auprès des nôtres, de ce qui nous faisait sens pour nous, de notre travail, des amis, peu importe. Mais on revenait dans le monde réel, qui est notre monde que l'on vit tous les jours. Actuellement, plus personne quasiment, c'est un peu dur de dire ça, mais les gens ne s'informent plus avec les journaux.
On a la notification au bout de la main.
Et très rapidement, ça veut dire qu'on a un problème vraiment dans la temporalité. Au lieu d'avoir le fait que ça se décante, quand il y avait même une très mauvaise nouvelle qui arrivait, on ne l'avait pas immédiatement. Déjà, les journalistes avaient le temps de se poser, de réfléchir, de faire du sens, de faire du lien. Maintenant, on a directement, quasiment en temps réel, la catastrophe. Et cette catastrophe n'est pas retravaillée, on la prend de front, comme si on était sur place. Et on sous-estime largement le côté traumatisant de vivre de front une information, même si on est à distance
et
physiquement.
C'est développé également par les informations dites en continu, dont les médias se sont spécialisés, certains, à Radio France et France Info, CNews ou BFM ou LCI, on en parlera tout à l'heure. Thierry est en ligne de Lille, bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir à tous. Merci en tout cas et bravo pour votre émission qui est toujours très très juste.
C'est très gentil, c'est très gentil. On est content de la faire pour vous.
Très bien. Voilà, j'ai dans mon entourage quelques personnes qui sont toujours anxieuses par l'information en continu. Et donc, moi j'ai décidé au sein du foyer de me tenir informé de l'actu par l'écoute d'un journal au moins une fois par jour, plutôt radio, bien sûr, surtout pas de chaîne d'infos en continu, qui comporte beaucoup trop de temps passé par des chroniqueurs qui sont experts de rien. des spécialistes de l'émission de télé et surtout pas des sujets dont ils traitent. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de voir au moins une fois par semaine une émission de décryptage de l'actu, émission de télé plutôt, et bien sûr terminer mon information par la lecture d'un hebdo papier, d'un hebdomadaire, ces hebdomadaires comportent des analyses de l'actualité qui sont toujours très fines. Et posé.
Merci beaucoup de ce témoignage et je vais le soumettre à Sébastien Boulogne. Ce que dit notre auditeur Sébastien Boulogne, c'est ce que vous avez théorisé en exode informationnel hein, face à cette fatigue de l'information trop anxiogène. Votre étude met en avant cette notion d'exode informationnel. Ça veut dire consommer moins d'infos, mais aussi mieux adapté à soi.
Tout à fait. C'est un peu le principe du « less is more » ou « consommer moins, mais mieux ». En fait, quand on est soumis à une fatigue informationnelle, quand on n'arrive pas à tirer du sens de l'information, une des stratégies, c'est de s'en désengager. Et donc, ici, on va retirer les canaux qui nous font le plus de mal ou qui vont nous être moins utiles. En ce sens, en fait, dans notre première étude qui datait de 2022, on avait observé qu'il y avait en moyenne 8 canaux de consommation médiatique. Donc ça pouvait être à la fois les JT, les réseaux sociaux, la radio.
Deux ans après, il en reste combien ?
Et deux ans après, il en reste plus que 7. Donc on a perdu un canal.
Et on sait lequel a disparu ?
On ne sait pas lequel a disparu et ça va dépendre des profils. Mais on sait qu'en tout cas, celui qui est gardé, c'est les réseaux sociaux, qui sont le média le plus consommé quotidiennement pour l'actualité, donc dans ce but même, même s'il y a autre chose, il y a du divertissement aussi. Hein.
Puis il y a l'info en continu, nos auditeurs nous en parlent depuis le début dans le débat qui nous occupe ce soir. Là. Quel est le rôle des chaînes d'info en continu dont certaines, cet auditeur vient de le dire encore, privilégient l'émotion au détriment du fond, le commentaire avant les faits et le coup de menton en guise d'argument. Quel rôle elle joue dans cet caractère anxiogène de l'information ?
Ça fait partie justement d'un des phénomènes de la fatigue informationnelle, c'est le caractère très polémique et agressif de l'information, en tout cas telle qu'elle est ressentie. C'est ce que nous disent aussi nos répondants, c'est un tiers des Français qui nous disent que l'information peut avoir un impact sur leur morale au quotidien. Et ce sensationnalisme, en fait, il laisse pas de place à la réflexion. Il va pas aider à avoir un avis éclairé sur la situation.
Et dans ce sensationnalisme, je pousse le bouchon un peu loin, mais est-ce que les Français que vous avez interrogés font la différence entre une chaîne ou une autre, une chaîne d'information en continu ?
Alors, on ne l'a pas posé la question telle quelle. En revanche, ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes qui, pour le coup, arrivent plus facilement à maîtriser l'information sont des consommateurs dits traditionnels de médias, en fait, qui ont une fin. C'est-à-dire qui ont un début et une fin. Les journaux, les podcasts, les émissions radio, qui ne sont pas, en fait, de la consommation en flux continu. Donc, ce soit par le binge-scrolling, c'est-à-dire le fait de, en permanence...
D'aller chercher, voir des images un peu sensationnelles
tout
parfois.
À fait. Et de passer d'une information à une autre, qui peuvent être complètement décorrélées et qu'on n'a pas choisi. En fait.
Docteur Marine Colombel, avant de retourner au standard, l'anxiété, d'où qu'elle vienne, de l'information ou d'ailleurs, c'est un levier qui favorise les épisodes dépressifs, c'est un entonnoir dans lequel on rentre.
Effectivement. Pourquoi ? Parce que cette anxiété va sans arrêt stimuler l'axe qu'on connaît bien maintenant, qui est l'axe du stress, qui relie le cerveau, l'hypothalamus au surrénal, et qui libère en permanence du cortisol dans le corps, et qui fait une sorte d'inflammation, si vous voulez, chronique dans le corps, qui va favoriser l'apparition d'un trouble dépressif. Et je vais rajouter quelque chose, on en parlait un petit peu, les images sensationnelles qu'on a sur les réseaux sociaux. Il faut se dire que notre cerveau, lorsqu'il les voit, ne différencie pas une image de la réalité. Ça veut dire que lorsqu'on voit des fois des choses complètement atroces, c'est vécu comme si notre corps le vivait en direct. Le cerveau n'a pas les capacités de différencier les deux. Il va donc produire des émotions liées au stress, de la peur, de la colère, qui va entretenir finalement ce terreau qui va être extrêmement propice au fil des mois et des années à la dépression.
Cela dit, il me semble que l'anxiété est aussi un mal nécessaire, indispensable au bon fonctionnement de notre cerveau.
Alors le stress pas l'anxiété. Il y a une petite nuance à avoir, mais qui est importante.
Nous allons au standard. Marie nous appelle de Vendée. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir. Je voulais déjà vous remercier. Je voulais vous remercier déjà pour votre émission et remercier vos intervenants également. Je vais rebondir justement ce que je vous en prie. Je voulais justement rebondir sur ce que disait Madame et ce qu'a pu dire Thierry avant. En effet, là, désormais, on est sur un flux continu d'informations. On étouffe littéralement. On est dans l'anxiété et l'anxiété, ça amène à quoi ? À l'agressivité aussi, à la colère, l'agressivité et la peur. Et ça participe en fait à se monter un petit peu les uns contre les autres. J'ai l'impression, moi personnellement, j'ai arrêté de regarder les médias mainstream, comme on dit, donc TF1, etc. Justement à cause de ce
flux permanent.
Voilà, tout à fait, exactement. On a pu aussi voir le danger et le côté, c'est ça, le danger apporté par le côté m'as-tu vu, le côté sensationnaliste, le côté entertainment. Notamment, je repense à chaque fois à à BFM qui avait filmé les attentats, enfin, les interventions des
GIGN.
Des forces, voilà, c'est ça. On était effarés avec ma famille devant la télé, enfin, c'était pas possible. Et depuis, j'ai l'impression que depuis cette époque-là, ça n'a fait qu'empirer. Aujourd'hui, on est sur l'émotion, non plus sur l'information. Ça ne fait que confirmer. Les médias classiques ne font que confirmer des biais. On n'est plus sur des médias d'information, comme je disais, mais comme sur des médias d'opinion. Je vois CNews, BFM, enseignement LCI, etc. C'est que ça. C'est que ça. Moi, je ne vois que ça, c'est des opinions. Du coup, ça n'apporte rien, ça n'apporte ni réflexion, ni culture. Ça ne fait que confirmer des opinions, des a priori sur des gens et nous monter les uns contre les autres.
Merci. Merci beaucoup de ce témoignage sur les médias d'opinion et aussi sur une information qui en chasse une autre. Hein. Edgar Morin l'avait théorisé dans ce qu'il appelait le nuage informationnel quand une information chasse l'autre. Aujourd'hui, nous serions trop informés au point d'avoir perdu la notion d'utilité de l'information. Je vous pose la question, Sébastien Boulogne.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de ce qu'on a pu analyser dans notre étude. C'est une des causes de la fatigue informationnelle, c'est notamment l'utilité de l'information, la nature même de l'information, en dehors de la manière dont on va la consommer.
Je précise juste un fait, c'est qu'avant, auparavant, l'information avait vocation à développer la connaissance. Aujourd'hui, comment son utilisation s'est-elle dévoyée, si je peux me permettre ?
Alors, en fait, ça va sortir. C'est plutôt dans l'offre de médias qu'on va avoir une piste de réponse ici. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. En fait, on est aujourd'hui dans une société de l'hyper-information, où en fait, tous les médias, que ce soit les médias d'information, mais aussi les médias de divertissement, donc ça peut être les plateformes de streaming, ça peut être la télé, les films, sont dans une économie de l'attention où l'objectif, c'est accaparer l'audience. Et ça va avoir des répercussions, puisque pour avoir plus rapidement une masse d'audience qui va s'intéresser à son contenu, on va jouer sur les émotions, parce que ça fait partie des comportements humains plus facilement atteignable.
C'est plus facile de regarder un programme que de comprendre un documentaire sur l'information.
C'est plus facile d'attirer avec l'émotion qu'avec l'information. Voilà. C'est plus facile d'interpeller que d'informer.
D'ailleurs, en juin 2024, je crois que vous aviez, c'est-à-dire avant les élections européennes, vous aviez demandé aux Français si l'information avait pu éclairer leur choix. Quelle réponse aviez-vous eue à l'époque ?
Alors, sur ce sujet, on avait proposé en fait plusieurs réponses. Donc, les répondants avaient l'opportunité de dire de quelle manière l'information les avait impactés. Donc, on avait, par exemple, la capacité... Enfin, le fait de se faire une opinion personnelle. Donc là, c'était 34% des répondants qui avaient utilisé cette option. Mais on avait aussi 30% de personnes qui nous ont dit que ça les avait énervés. Et 27%...
Qu'est-ce qui les avait énervés, précisément ?
L'information.
Le traitement de l'information par les journalistes ?
Le traitement de l'information, tout à fait.
Bien, et bien on en prend notre part.
Voilà. Et puis ensuite, c'est l'angoisse et le stress pour
27%. L'angoisse et le stress. On parlait des chaînes d'infos en continu. Je me retourne encore vers vous, docteur Marine Colombel. Est-ce que c'est bien la répétition des épisodes dépressifs qui peut entraîner des maladies?
Alors,
le côté répétitif est important.
La dépression, c'est déjà une maladie.
C'est... Oui, bien sûr. Mais je veux dire, d'autres pathologies. De la dépression peuvent surgir d'autres pathologies?
Alors, même avant ça, parce que ce n'est pas forcément l'information qui va créer de la dépression, mais on est vraiment sur, par contre, une dysrégulation des émotions, c'est évident. Parce que si on est soumis sans arrêt dans un bain, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de peur, de colère, notre fonctionnement va s'ancrer finalement avec ce qu'on appelle ces fameux schémas cognitifs qui vont... déborder en dehors de simplement la lecture des médias. Mais il suffit de voir une journée, vous apprenez une mauvaise nouvelle dans la journée, il y a de très grandes chances que votre émotion va courir tout au long de la journée et il y aura des conséquences dans vos interactions sociales, au travail, peut-être avec vos enfants. C'est exactement ce que fait finalement ces médias de consommation rapide, notamment, je pense, effectivement, l'ex-Twitter, par exemple, où on va manger énormément d'informations très émotionnellement codé et c'est fait exprès justement pour qu'on puisse scroller ces informations-là, qui vont nous mettre dans un certain mode de cerveau, dans une certaine tonalité émotionnelle qui, si on n'en prend pas garde et qu'on ne se recentre pas, comme nous avait dit d'ailleurs le premier témoignage en disant je sors, je vais voir la nature, je change de façon d'être, si on reste dans la même façon qu'on a été le matin, on va avoir ces émotions qui vont traîner et qui, petit à petit, vont attaquer la santé mentale.
Donc, il faut apprendre à se désaxer
et
réduire un peu sa consommation. Et vous, comment gérez-vous le caractère anxiogène de l'information? On en parle jusqu'à 20h.
France Inter. Le téléphone sonne.
Martine est en ligne de Nantes. Bonsoir Martine.
Bonsoir. Donc, je disais à votre standard que je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi masochistes. J'écoute les titres le matin à 7h, à 13h, à 20h. Si vraiment il y a un événement, mais sensationnel dans le mauvais sens du terme, comme les attentats, d'accord, je vais regarder, mais une fois. Là, j'ai regardé sur le Venezuela parce que j'ai des amis vénézuéliens. Et d'autre part, donc, la télé, je ne la mets pratiquement pas. Pas pour regarder des documentaires, je lis 80 à 100 livres par an, et je suis abonnée à une salle de sport qui nous offre l'Ouest France. Donc, je vais trois fois par semaine et je prends Ouest France, qui est un très bon journal, et là, je lis des articles de fond dans la presse locale.
Très bien, ça semble parfaitement correspondre à cet exode informationnel que met en évidence l'Obsoco et son représentant ce soir, Sébastien Boulogne. Finalement, lire factuellement ou écouter ou regarder juste les titres trois fois par jour et aller chercher l'analyse volontairement dans un journal, lire... écouter ou voir l'information, il y a une hiérarchie du caractère anxiogène. L'image, j'imagine, le flux d'images peut-être plus important.
C'est plutôt la différence entre le flux et le fait d'avoir quelque chose de fini. C'est là où on va avoir une vraie différence. Mais justement, c'est un très bon exemple d'une manière de recentrer sa consommation. Vous parliez tout à l'heure de l'infobésité. En fait, c'est cette logique
de surcharge.
De surconsommation qu'on peut retrouver avec l'obésité, en fait. Justement, le fait de trop consommer et de plus pouvoir assimiler. C'est la même chose avec l'information. Si on en consomme trop, on peut avoir des difficultés à l'assimiler.
Oui, docteur Colombel.
Ce qui est intéressant, c'est que sur un point de vue purement de neurosciences, en fait, on a des explications. On a très bien dit pourquoi on se fait du mal, finalement, à aller sans arrêt voir les mêmes informations. Parce que ces informations qui se consomment sous forme d'images vont libérer des petits shoots de dopamine dans le cerveau, c'est le même mécanisme que l'addiction. Ça veut dire qu'on est addict vraiment à l'information, non pas parce qu'elle nous fait du bien, mais parce qu'elle va libérer des neurotransmetteurs de façon très rapide, quelque chose que l'on trouve beaucoup moins, par exemple, dans la lecture. La lecture donne moins de dopamine, mais par contre, on a un niveau de réflexion bien supérieur et un niveau de régulation des neurotransmetteurs bien meilleur sur le long terme, qui explique aussi pourquoi on va vers un média qui nous fait du mal, alors qu'on sait pertinemment que d'autres vont nous faire du bien, mais on n'y va pas parce qu'il n'y a pas ce côté addict au gène.
01 45 24 7000, le standard de France Inter. Fabrice nous appelle de Lille. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
Alors, moi je voudrais revenir sur deux petits points. Moi je donne des cours, aujourd'hui je suis un ancien journaliste, je donne des cours depuis une dizaine d'années dans l'enseignement supérieur, ça peut être avec des étudiants en commerce, en ingénieur, en journalisme ou en communication, et je raconte justement ce que c'est que l'infobésité et comment s'en débarrasser. Et d'abord je voudrais revenir sur un point, c'est que l'infobésité c'est un terme qui existe non pas depuis les réseaux sociaux, mais depuis 1983. Et c'est un écrivain américain qui avait déjà sorti cette première phrase, et à l'époque il n'y avait pas Internet, donc c'est pas forcément dû qu'au réseau. Ça a forcément été accéléré depuis une dizaine d'années. Et puis, moi, ce que j'apprends à mes étudiants, puisque vous parliez en début d'émission des notifications, c'est moi, je leur demande de les désactiver et de garder uniquement celles qui sont prioritaires, notamment pour des raisons privées ou familiales. Par exemple, si leur maman a besoin de les joindre ou des choses comme ça. Mais surtout, ne pas prendre les notifications d'actualité. Parce qu'ils vont ils vont en recevoir une cinquantaine par jour, ils vont lire un titre, ils vont pas s'y intéresser. Ils vont passer à côté de quelque chose qui est peut-être important. Et puis surtout, parce qu'au moment où ils reçoivent leur notification, leur cerveau n'est pas prêt à assimiler l'actualité. Et je leur apprends une deuxième chose, c'est d'écouter, et je viens d'entendre l'auditrice juste auparavant, qui disait qu'elle écoutait le matin, le midi et le soir. C'est exactement ça. Moi, je leur apprends à écouter l'actualité quand leur cerveau est prêt. Et notamment le matin, le petit déjeuner, et c'est une anecdote, mais sous la douche. Parce que quand on prend une douche, on n'a rien d'autre à faire que se laver et se laver les cheveux. Et on peut écouter via un smartphone ou une enceinte Bluetooth l'actualité pendant un quart d'heure. Et ça suffit. Et remettre ça un peu plus tard, mais au moment où on en est prêt. Et pas quand on est en cours, pas quand on est avec des potes en train de prendre un verre ou de discuter avec sa chérie, mais au moment où notre cerveau est prêt. Et c'est comme ça que je le rapprends.
Eh bien merci, merci de nous l'avoir dit ce soir sur France Inter. Enlever les notifications, la fatigue informationnelle. Sébastien Boulogne, on en parle ce soir à propos de l'actualité et des journaux d'information, mais au bureau, au travail aussi, quand on reçoit trop d'informations, les mêmes causes génèrent les mêmes effets ?
Tout à fait.
C'est ce que vous mettez en évidence dans votre étude aussi, je crois.
Également, oui. En fait, dans cette nouvelle édition de la fatigue informationnelle, on a fait une partie sur le travail, puisqu'on s'est rendu compte qu'évidemment, l'information ne se limite pas à l'actualité, mais aussi à toute forme d'information qui peuvent nous arriver. Et au travail, on observe aussi une forme de fatigue informationnelle qui est moindre. Là, on est plutôt dans les ordres de 30% de personnes qui sont surchargées au travail, mais qui vont avoir les mêmes conséquences, notamment avec le burn-out, qui est un peu l'apogée du stress, de l'anxiété au sein du monde professionnel. Mais on voit aussi en fait que cette surabondance d'informations, elle arrive dans le cadre professionnel, avec en moyenne un mail sur deux qui ne trouve pas son utilité. Donc des actifs qui nous disent que voilà, la moitié de leur boîte mail est composée de mails qu'ils n'ont pas ouverts ou qui ne les intéressent pas, même qui ne les concernent pas.
Docteur Marine Colombel, vous consultez, vous recevez beaucoup autour des questions du burn-out. Est-ce que les patients qui viennent vous voir en cabinet ont conscience toujours de cette surabondance d'informations ? Oui. Ils en ont conscience ?
Ils en ont conscience et ils en souffrent et ils le disent clairement. Pourquoi ? Parce que, bah, évidemment, je sélectionne, j'ai un biais de sélection. Les gens qui viennent me voir sont déjà au minimum anxieux, voire anxieux-dépressifs, voire en burn-out. Donc, ils ont déjà un terrain, on va dire, fragilisé de grande fatigue.
Ont conscience que la fatigue informationnelle, oui, serait aussi une forme de pénibilité au travail.
Pour le travail, vous voulez dire ?
Oui.
En tout cas, c'est un poids. Cette fatigue liée aux informations est un poids en plus pour eux. C'est évident. Évidemment, c'est pas forcément ça la principale cause de burn-out, mais elle va se surajouter tout simplement parce qu'elle va contribuer à un gros problème et pour le coup, une grosse cause du burn-out, qui est la disparition des espaces. Actuellement, on vit dans un monde où la frontière disparaît.
Notamment dans l'information, entre l'infotainment et l'émotion
dans
et les faits.
Tout finalement se chevauche quand on est au travail, on pense à sa famille, on va avoir des notifications sur l'actualité qui viennent. Quand on est avec sa famille, on va penser à la prochaine réunion, on va avoir un mail qui va nous rappeler qu'on doit faire telle tâche ou telle tâche. Finalement, tout se superpose et les espaces n'existent plus. C'est extrêmement épuisant et évidemment, les notifications font partie du problème.
Sébastien Boulogne, quand l'information n'est plus éclairante, quand elle se vautre dans le divertissement, avec quelles conséquences en termes d'enjeux démocratiques ?
Et alors c'est un lien que nous avons fait entre l'information et le rapport général au monde, en fait, comment avoir les Français. En fait, on se rend compte qu'il y a une envie générale d'un ralentissement, l'envie de se recentrer autour de sa personnalité, son individu, quand on est trop surchargé par l'information. Et donc, on a ce premier phénomène qui est l'exode informationnel. On va se retirer de l'information.
Mais on va se replier. Hein. C'est un repli et c'est un choix de nos sources d'information.
On va choisir davantage son information, voire on va complètement arrêter de consommer l'information, soit pour un petit temps, soit pour un temps un peu plus long. Mais c'est une situation qui peut avoir un impact direct sur la manière dont on va se former une opinion, puisque si elle n'est pas confrontée avec des opinions différentes qui peuvent être entendues, par exemple à la radio ou à la télé, on peut rester dans une bulle cognitive dans laquelle on a du mal à s'en sortir, en particulier quand on consomme des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui avec les métadonnées et le fait que les bulles sont hyper personnalisées pour les individus, on va rester dans une bulle qui nous convient et qui à la fois nous rassure, mais ne va pas nous éduquer ou nous confronter à d'autres réalités.
C'est un peu le risque d'ailleurs de l'exode informationnel, c'est de contribuer à faire des communautés.
Tout à fait.
Qui ne se croisent pas toujours.
On parle de, parfois justement d'îlots d'informations dans lesquels en fait on va avoir des gens qui vont sur d'autres territoires.
Il nous reste quelques minutes, on va retourner au standard pour donner la parole aux auditeurs de France Inter. David est à Saint-Tropez. Bonsoir David.
Bonsoir l'équipe.
Nous vous écoutons.
Alors, je voulais vous dire que je fais une petite chaîne TikTok qui s'appelle Le Tropézien sur Saint-Tropez pour justement un petit peu évacuer le stress des gens qui ont une vie infernale avec des informations qui sont anxiogènes. Et ça fait que du coup, je m'amuse à faire des petites films sur la mer, sur les activités et les actualités à Saint-Tropez, comme par exemple les voiles de Saint-Tropez. Je me base sur le soleil, je me base un petit peu sur les images positives.
Bon.
Ce qui permet aux gens un petit peu de se décontracter. Et d'ailleurs, je commence à avoir pas mal d'abonnés, c'est très sympa et ça plaît à plein de gens.
Eh bien, voilà. Bravo pour le petit coup de pub. merci de nous avoir appelé de Saint-Tropez, David. Je reviens peut-être vers vous, Sébastien Boulogne, pour le travail des journalistes. Nous devons y prendre aussi notre part, hein, quand je lis que les Français nous reprochent de ne pas transmettre correctement l'information. Précisément, que nous reproche-t-il ?
Alors, précisément, on se rend compte qu'en fait, il y a une forme de coup d'entrée assez difficile dans l'information quand on en est éloigné ou quand on s'en est retiré pour un peu se soigner. En fait, il y a un feuilletonnage de l'actualité qui fait qu'il faut avoir les codes. Donc, quand on revient et qu'on n'a pas tout suivi de bout en bout, ça peut être difficile de raccrocher. Et on a l'impression d'être justement noyé sous trop d'informations. On a aussi un discours des journalistes directement qui est parfois jugé comme trop complexe. Donc c'est 57% des Français qui nous disent que généralement, ils trouvent que la façon dont s'expriment les journalistes rend les choses plus complexes. Donc c'est à la fois une manière de peut-être recontextualiser l'information, la remettre dans une globalité, dans une histoire, une chronologie, et à la fois la simplifier. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux de chaînes qui veulent vulgariser l'information, repartir sur les sources. Voilà,
docteur,
les sources d'un conflit, par exemple.
Docteur Colombel, beaucoup de questions encore. Maryse à Auxerre nous demande à quel point la lecture serait moins anxiogène que les flux d'images négatives. Elle dit, ça paraît une évidence, mais il faut peut-être expliquer encore par rapport au cerveau.
Alors, parce que pour lire, en fait, on va mobiliser différentes parties du cerveau qui ne sont pas liées aussi directement au système limbique, au système de traitement des émotions. Ça veut dire qu'il va y avoir un travail cognitif beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce qu'il faut lire, il faut se concentrer, il faut comprendre l'information. Ça va solliciter beaucoup aussi l'imaginaire. La presse papier, avant, il n'y avait vraiment aucune photo. Les gens avaient une représentation mentale du monde qui était peut-être plus fausse en images, mais plus vraie dans le fond, parce que ça faisait appel à leur monde intérieur, à leurs images, et ça permettait de nourrir ce monde intérieur. C'est pour ça que c'est beaucoup moins délétère de lire une information que de la voir directement.
Sébastien Boulogne de l'Obsoco, en 2 ans, entre vos différentes études 2022 et 2024, comment ont évolué les commentaires de l'actualité sur les réseaux sociaux ?
Alors la tendance est justement à la baisse, à la fois...
On commente moins l'actualité sur les réseaux sociaux depuis 2 ans ?
On discute et on commente moins l'actualité. Que ce soit, par exemple, là, le fait d'appeler des émissions radio, c'est un pourcentage qui déjà était très faible et qui a tendance à diminuer, donc c'est 5%. Donc voilà, on est quand même dans une exception. Les personnes qui vont discuter et commenter en public sur les réseaux sociaux ont aussi tendance à diminuer, mais ça fait partie du retrait de l'information plus générale. En revanche, ce qui va se stabiliser, c'est la discussion et le fait de partager l'information entre proches. Donc ça, c'est aussi une bonne manière de pouvoir se surcharger, enfin se délaisser de cette surcharge si on communique avec ses proches.
Il nous reste quelques secondes. Je voulais vous demander, on l'a un peu abordé tout à l'heure, cette disparition de l'information en tant que vecteur éclairant de l'actualité. Est-ce que vous la jugez, cette disparition, inquiétante à l'Obsoco ?
La disparition de l'information.
En tant que vecteur éclairant, on parlait de danger pour la démocratie, faire le lien, est-ce que vous faites bien le lien ?
Oui, tout à fait. Alors, ça peut être assez inquiétant, notamment parce qu'en fait, pour une partie des personnes qui sortent de l'information, il faut savoir où ils vont. Et ces personnes, il peut y avoir une partie qui va avoir tendance à aller sur une information alternative.
C'est-à-dire les complotistes, ceux qui sont estampillés complotistes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu aux auditeurs de France Inter.
Merci.
Le téléphone sonne, c'est terminé.